Le message que vous allez suivre est un enseignement du révérend Raoul Wafo. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée.
Vous savez que chaque nouvelle dimension est précédée par une nouvelle révélation. Donc si je veux aller à une dimension supérieure, je dois tout faire pour avoir une révélation nouvelle. Car ma vie ne change pas tant que ma révélation n'a pas changé. Beaucoup de personnes veulent voir le changement dans leur vie, mais ne payent pas le prix pour avoir accès à une révélation nouvelle. Il n'y a que la révélation nouvelle qui t'apporte une dimension nouvelle. Il ne faut pas oublier aussi que la connaissance dans le royaume de Dieu est conditionnée et précédée par la révélation. On peut connaître par l'intellect et ne pas connaître par l'esprit. Ce sont les choses que nous connaissons par l'esprit qui nous amènent justement la provision de ce que le ciel nous a réservé. Donc le message de ce matin va t'amener à une nouvelle dimension par une nouvelle révélation. Une révélation simple, mais qui a pour but de toucher ton cœur. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Ils verront Dieu en action dans leur vie. Ils verront Dieu pourvoir. Ils verront Dieu les bénir. Ils verront Dieu les protéger. Ils verront la faveur incroyable de Dieu sur leur vie. Oui, ça commence par le cœur. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec leur tête et très peu viennent avec leur cœur. Le message de ce matin s'adresse à ton cœur. Donc, il faut que ton cœur soit ici. Amen. Dis à ton voisin, tu ferais mieux de ramener ton cœur dans cet endroit. Réponds à ton voisin et dis-lui... Amen, quand même, mon cœur est ici. Alléluia. Prends ta Bible avec moi pendant que nous sommes debout dans Romains 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire ensemble les versets 33 à 39. Nous y sommes. On y va. 1, 2, 3. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis distinguées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole merveilleuse et puissante. Notre confiance est placée en toi, ô Dieu. Béni sois-tu pour la révélation de ta parole qui nous est accordée gracieusement par le Saint-Esprit afin de nous permettre, oui, de nous permettre d'être illuminés dans notre homme intérieur et que, Seigneur, par cette révélation de ta parole, nous puissions aller dans une autre dimension de ta connaissance. Une dimension d'expérimentation de tes promesses sur la terre des hommes. Une autre dimension de la vie, afin que ton nom soit célébré par nous. Et que nos vies témoignent de ta grandeur, de ton amour, de ta fidélité, de ta loyauté, de ta présence éternelle à nos côtés tous les jours. Au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci pour l'onction sur ma vie en ce jour encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un, trois fois, dise Amen.
Amen.
Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous sommes en train de continuer notre série que j'ai intitulée « Une voix plus excellente ». Et ce matin, nous allons parler de, en sous-thème de « Engendrer par l'amour ». Ce que l'amour de Dieu est supposé engendrer dans nos vies. Si nous disons que nous aimons Dieu, quelles sont les choses évidentes que cet amour de Dieu dans nos cœurs devrait engendrer et qui serait donc visible au travers de nos actions quotidiennes. Vous savez, il est indispensable d'avoir une profonde révélation de l'amour que Dieu a eu pour nous. Car la profondeur de la révélation de l'amour de Dieu va certainement engendrer en nous et par nous des vertus visibles et qui permettront donc que nous soyons effectivement la lumière du monde. Que nous soyons avec fierté cette maison qui est bâtie sur une montagne et qui ne peut être cachée. En quelque sorte, cette révélation fera de toi et de moi des personnes hautement distinguées dans le royaume et dans la société. De quelle vertu il s'agit? Premièrement, la loyauté. La loyauté. Vous savez que vous ne pouvez pas dire de quelqu'un qu'il est loyal tant que vous n'avez pas été absent. Parce que la véritable loyauté est démontrée en l'absence de la personne avec laquelle on s'est engagé sur le chemin de la fidélité. La loyauté. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 3 à 4, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si nous disons que nous aimons Dieu, la première des choses qui doit être visible dans notre vie de tous les jours, c'est notre loyauté à l'égard de Dieu. Et notre loyauté est démontrée par notre capacité à garder les commandements de Dieu parce que nous l'aimons. Pas parce que la loi nous l'impose, mais parce que nous aimons Dieu. Nous avons vu que la loi nous rend impuissantes. Nous ne pouvons pas, par la loi, n'est-ce pas, accomplir la loi. Car Jésus est venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir pour nous. Donc, nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons accompli les 10 commandements, mais nous sommes justifiés parce que nous avons cru en celui qui l'a accompli pour nous. Mais cependant, le fait d'avoir cru en lui ne nous prive pas, nous à notre tour, d'être obéissants à Dieu, même si nous ne regardons plus à la loi, nous regardons à celui qui a accompli la loi pour nous. Il est donc paru pour être le premier-né d'entre plusieurs frères. Et il a mené une vie d'obéissance parfaite sur la terre des hommes afin de servir de modèle et que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions ressembler à celui-là qui a tellement aimé le monde qu'il a accepté de mourir à la croix pour que sa vie puisse servir de rançon pour chacun d'entre nous. Donc, si j'aime Dieu, je dois être loyal à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est le parfait exemple de la manifestation de l'amour. Car il aimait dire, je ne fais rien si je n'ai entendu cela de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que le royaume des cieux était bâti sur la notion de la soumission à l'autorité et que son amour pour Dieu devrait être révélé par sa capacité à se soumettre à son Dieu, bien que lui-même soit Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si j'aime, je suis loyal. Je garde, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Et la Bible dit que cela n'est pas pénible. Pourquoi? Parce que par la nouvelle naissance, notre cœur de chair a remplacé un cœur de pierre. Et nous avons vu selon Romains 5, verset 5, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lève ta main droite et dis, je reconnais que l'amour de Dieu est à moi. Encore, je reconnais que l'amour de Dieu est à moi. Vous voyez, il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour répandu dans nos cœurs qui nous donne donc la capacité de marcher en accomplissant la volonté de Dieu quotidiennement. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et vous savez, quand on dit né de Dieu ici, ce n'est pas né de Jésus, mais c'est celui qui est né du Père. Car nous savons que la trilogie de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se sont mis ensemble et ont vaincu la trilogie du diable, c'est-à-dire le diable, la chair et quoi d'autre? Le monde. Et que le monde a été la cible de Dieu le Père. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, car ce qui est dans le monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc quand Dieu a répandu son amour dans ton cœur, le premier signal, c'est que tu cesses d'aimer le monde. Si vous aimez encore le monde et ce qui est dans le monde, ça veut simplement dire que l'amour du Père n'est point en vous. Et donc, quand je dis aimer le monde, je ne suis pas en train de te dire que tu ne devrais pas aimer avoir une belle maison, une belle voiture, être en position d'autorité. Non, ce sont les choses que le royaume de Dieu te réserve. Mais je dis de ne pas aimer le monde, c'est-à-dire ne pas désirer obtenir ces choses en dehors de sa voie. Est-ce que vous me comprenez? Ne pas pactiser avec le diable pour obtenir des choses que Dieu te réserve d'avance. Donc, quand tu aimes Dieu, tu restes loyal. La loyauté. La loyauté. Bien-aimé, cela se transpose dans nos familles. Si j'aime mon mari, je suis loyal à mon mari. La loyauté. Si j'aime ma femme, je suis loyal. Donc, il y a une dimension de loyauté que l'amour devrait engendrer dans nos cœurs. Et vous savez que le problème de cette génération, c'est que nous vivons une génération, il manque de réel amour. Les gens confondent le désir à l'amour. Non, le désir, ce n'est pas l'amour. On peut désirer quelque chose sans aimer la chose. Quand, par exemple, vous voyez vous avez votre bon coq à la maison, d'accord? Et si le voleur vient prendre le coq, est-ce que vous allez le laisser prendre? Non. Mais ça ne veut pour autant pas dire que vous aimez votre coq. Parce que puisque le coq finira dans la marmite et vous allez manger le coq, si vous l'aimez tant, vous n'allez pas le manger. Donc vous avez peut-être désiré le coq pour votre ventre, mais vous n'avez pas aimé le coq. Parce que quand vous aimez, vous ne faites pas du mal à la personne que vous aimez. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous devez faire une différence entre l'amour, parce que tout le temps on dit « Ah, je t'aime ». Non, l'amour va plus loin que ça. D'accord? Ça ne s'arrête pas sur un simple désir apparent. Non, c'est plus profond. L'amour vient de Dieu. L'amour est un sentiment extrêmement noble qui nous conduit à la dimension de la loyauté. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est visible, je m'engage de cœur quand ça va bien ou quand ça va mal, de rester rattaché à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant la révélation de cet amour, dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? L'amour de Dieu manifesté par Christ, notre Sauveur. Ni la nudité, ni la faim, ni le péril, ni l'épée. Ça veut dire qu'il avait tellement compris l'amour de Dieu qu'il a dit, même si Dieu ne m'accorde rien, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Je serai toujours avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Que je sois dans la faim, que je sois dans l'unité, que je sois dans le péril, je resterai fidèle à Dieu. Combien de personnes parmi vous pouvaient dire au Seigneur, je suis attaché à toi, même si j'ai fait 3 mois sans trouver de l'argent pour payer mon loyer. Ne vas-tu pas dire, oh, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu existe même? Certaines personnes remettent l'existence de Dieu en cause quand ils passent par des problèmes. Mais vous savez que l'épreuve arrive pour tester votre réel engagement d'amour, votre réelle loyauté à l'égard de votre Dieu. La loyauté. Nous devons être des personnes loyales. Quand l'amour de Dieu est manifeste, la loyauté se démontre. Et je vais plus loin, bien-aimé. Au-delà du fait de lever les mains à l'église et dire « Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux ». Le plus haut niveau d'adoration possible que le ciel attend de chacun d'entre nous, c'est une vie d'obéissance constante. Il n'y a pas plus grande adoration que d'obéir à Dieu. Donc, vous pouvez ne pas chanter, mais chaque fois que vous faites un choix, basé sur votre loyauté à l'égard de Dieu, Dieu considère que vous l'adorez. C'est la vraie, véritable adoration. D'accord? Ce n'est donc pas une adoration des lèvres, mais c'est une adoration du cœur. Parce que le cœur est engagé. Nos actes tous les jours démontrent à Dieu que notre loyauté n'est pas remise en question. Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es une personne loyale? Vous savez que quand vous vivez avec quelqu'un et que vous observez que la personne ne paye pas sa portion d'alliance, c'est la démonstration que la personne même, au-delà du fait de ne pas donner à l'église, est une personne qui n'est pas obéissante à Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas apporter votre portion d'alliance à Dieu, ce n'est pas votre être que vous allez préserver pour Dieu. Je vous garantis. Montrez-moi une femme qui ne paye pas sa portion d'alliance, je vous démontrerai que cette femme-là, à 75%, est sur la pente d'une vie pas correcte. Parce que si votre cœur est à Dieu, il n'y a aucun, vous n'avez aucun doute, aucune autre chose que de vivre dans la loyauté de ses principes et de sa parole. Vous aimez garder sa parole. David dit, je sers la parole de Dieu dans mon cœur, de peur de pécher contre lui. Donc, quand vous aimez Dieu, vous gardez sa parole, vous êtes loyal au principe de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'opportunité de pécher. Mais l'opportunité ne sera jamais plus grande que l'amour de Dieu dans votre cœur. D'accord? Lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux te rester loyal toute ma vie. Et vous voyez donc que la loyauté, c'est la première chose que l'amour de Dieu engendre dans le cœur de toute personne qui a une relation avec lui. La deuxième chose, c'est la bonté. Et je vais te dire une autre chose au sujet de la loyauté, c'est que Dieu lui-même te reste loyal. C'est pourquoi il dit, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme? Dieu est extrêmement loyal. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais. Chaque fois qu'il commence quelque chose avec toi, il va s'assurer qu'il achève. Dieu est extrêmement loyal. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il est même allé dans une loyauté terrible. Jusqu'au moment où Adam et Ève ont péché, ont été séparés de lui, sa loyauté l'a amené à sacrifier son fils pour la rédemption de l'humanité. Quelle loyauté! Vous savez, quelqu'un qui vous est loyal simplement parce que tout va bien entre vous, n'est pas dans la perfection de la loyauté. La vraie loyauté se démontre même quand ton allié a fauté. Vous savez, vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit, ah bon, et c'est vrai, il t'a dit ça de moi, c'est vrai. D'ailleurs, laisse-moi maintenant te donner ses secrets. Il avait fait ci, il avait fait ça, il avait fait... Vous rappelez, n'est-ce pas? Ça, c'est l'humain. Ah bon, il m'a trahi, maintenant moi aussi, je vais étaler ce que lui, il a fait. Il a fait ci, non, non. Quand vous êtes loyal à l'égard de quelqu'un et qu'on vient vous dire, par exemple, que ton ami X a fait telle chose, il dit, ah bon, ça m'étonne de lui. Même si vous savez que cette personne peut faire ça, à cause de la loyauté, par son absence, vous dit, je suis étonné de ce que vous me rapportez à son sujet. Pourquoi? Parce que vous croyez le meilleur de cette personne. Et ne vous attendez pas que cette personne puisse réagir de façon méchante. Et la deuxième chose, c'est que vous ne dites rien de mal en la présence du rapporteur. Parce que vous êtes loyal. Et vous dites, ok, c'est pas grave, c'est mon ami. Si ça vient de lui, il doit avoir une raison. Mais je parlerai avec lui, mais ça m'étonne quand même. Et la personne s'en va. Démontrez que vous êtes des personnes loyales. C'est important. Vous ne pouvez pas être une femme mariée et votre voisine commence à tenir une conversation sur votre mari, et vous venez la voir le lendemain pour continuer, et vous venez la voir une semaine pour continuer, et ça devient une amie basée sur le commérage fait à l'égard de quelqu'un qui t'a amené à la mairie. C'est la sorcellerie. Je vous garantis, c'est la pure sorcellerie. Vous ne devez jamais tolérer de telles attitudes. Jamais. Vous ne pouvez même pas permettre que les membres de vos familles, à l'absence de votre femme qui est montée dans sa chambre, commencent à la critiquer et vous-même vous dites, c'est la même, qu'on va faire comment? Non, c'est la déloyauté. Que cela ne soit pas trouvé parmi vous. Restez des personnes loyales à l'Alliance. Laissez-moi vous donner un conseil. Un homme qui critique sa femme en ta présence te critiquera aussi. Est-ce que tu me comprends très bien? Je te garantis que c'est, il est simplement en train de te démontrer son fond. Soyez des personnes loyales. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Quand même, il a vu la grossesse de Marie, il n'a pas voulu la diffamer. Pourquoi? Parce qu'il était loyal à Marie. Il avait vu la grossesse avant tout le monde. Mais il n'a pas voulu aller raconter du mal sur elle. Parce qu'il voulait rester loyal. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose que c'est exactement ce que tu penses que c'est. Il y a des choses que tu peux voir, mais qui ne sont pas ça. Quand le père de Joseph a vu les vêtements mouillés de sang, il a dit « Mon fils est mort », mais ça ne voulait pas dire qu'il était mort, il était bien en vie. Faites attention. Allez au-delà de ce que vous voyez. La loyauté te donne d'être patient et attendre les explications de ton allié avant de te décider. Ça va pour chacun d'entre nous? D'accord. Après la loyauté, il y a ensuite la bonté. La bonté. Donc, si j'aime, je suis bien bon. Quelqu'un de bon. Parce que Dieu lui-même nous a montré sa bonté. Luc 2, verset 32, la Bible dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Oh, j'aime ce verset. « Mon Père a trouvé bon. » Vous savez, notre Dieu est un bon Dieu. Il a trouvé bon de me donner le royaume. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais mon Dieu a trouvé bon de me donner le royaume. Les religieux ne comprennent pas la bonté de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la bonté de Dieu tant que tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a que par l'Esprit que nous avons une parfaite révélation de ce que c'est que la bonté de l'Éternel. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Donc Dieu prend un énorme plaisir à te faire du bien parce qu'il t'aime. Vous savez, Dieu c'est un bon Dieu. Et le diable c'est un mauvais diable. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais vient du diable. Je parle par exemple de l'élévation. Ça vient de qui? La prospérité? De Dieu. La santé? Le bonheur? La joie? La paix? Certaines personnes ne répondent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Vous voyez? D'accord? L'élévation? Très bien. Maintenant la maladie? Vous voyez que quand on parle du diable, certaines personnes répondent plus vite. Comme si quelque part ils étaient complices. Ah, je déclare sur ta vie qu'aucune mauvaise chose venant de l'enfer ne t'atteindra au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que tu vas nager dans l'océan de sa bonté. Tu seras embarrassé par les merveilles que l'Éternel fera dans ta vie. Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. La Bible dit dans Genèse 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, à la création, tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était bon. Il a vu que la lumière était une bonne chose. Je prophétise sur ta vie que tu marcheras constamment dans la lumière. Car Dieu t'a réservé la lumière et la lumière sera toujours à tes côtés. Au nom suprême de Jésus. Il a vu que la lumière était une bonne chose. Le Seigneur va constamment t'éclairer par son esprit. Il va constamment te donner de marcher dans la révélation de sa parole. Car c'est ça la promesse qui est rattachée à ta vie quand il a vu que la lumière était bonne. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Oh là 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 là. Je prophétise la séparation radicale. Toutes les actions ténébreuses dans ta vie, une séparation instantanée au nom puissant de Jésus. Il a séparé, dit séparé. Encore séparé. Et encore séparé. C'est clair que tu marcheras dans la parfaite séparation. Il n'y a rien de ce qui est ténébreux qui aura une emprise sur ta vie. Car Dieu a vu que la lumière était bonne et il a séparé la lumière avec les ténèbres. Ça se produit en toi par son pouvoir au nom suprême de Jésus. Il le sépare. Il le sépare. Et toi-même aussi, sépare. Alléluia. Sépare, regarde tes chaussures et sépare. Il y a certaines qui ne doivent plus être avec toi. Alléluia. Amen. Peut-être regarde dans ton compte bancaire et sépare. Il y a certains montants qui doivent aller dans le panier de l'offrande. Il faut des séparations. Alléluia. Il faut séparer. Est-ce que ça va? C'est très important. Amen. Il sépara. Et ensuite, dans la création toujours, la Bible nous dit au verset 18 de Genèse 1, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Dieu vit que cela était bon. Il a mis en luminaire pour présider au jour, en luminaire pour présider à la nuit. Je déclare sur ta vie tellement, vous savez, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, tu marcheras dans la lumière. J'ai dit, tu marcheras dans la lumière. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit, en la nuit comme le jour, tu marcheras dans la lumière. Ton pays sera en crise, mais tu ne seras pas en crise. Car Dieu a mis même la lune pour présider à la nuit, afin que même en pleine nuit, tu sois toujours éclairé. Je déclare que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Et il a fait parce qu'il est bon. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. C'était une bonne chose pour toi d'être constamment éclairé. Et au verset 25, il a dit, Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Donc Dieu a fait des animaux, il a vu que cela est bon. Donc vous voyez, tu ne mangeras pas à table à midi, et puis tu seras là avec de l'huile, et de, comme certains d'entre nous, de gari, de tapioca simplement avec un peu de sucre parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Non, Dieu a fait aussi les animaux, il a fait les poissons. Donc tu mangeras à table, il y aura de la chèvre, il y aura du mouton, il y aura du poulet, il y aura du tilapia, il y aura des rabats, parce que Dieu a vu que cela était bon. Il te comblera de tout et tu régneras sur les animaux. La deuxième chose que je vais te dire pendant que je préparais ce message, Dieu m'a dit de te dire qu'aucun animal ne se lèvera contre toi même la nuit. Tu n'as pas compris, j'ai dit même la nuit, on n'enverra aucune vipère mystique, aucun serpent mystique, aucune hirondelle mystique, aucun hibou mystique. Car Dieu a vu que cela était bon et ces animaux ne peuvent pas se lever contre toi. Alléluia. Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Et au verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ce n'était plus bon, mais c'était très bon. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il t'avait créé, l'homme et la femme, pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre. Et Dieu a vu que cela était très bon. Ah, je déclare que, vous voyez, après ce message, tu marcheras dans la plénitude de la bonté de Dieu. Amen. Tu jouiras des promesses de l'Éternel à tout égard, au nom suprême de Jésus. Alléluia. La bonté de Dieu sera constamment ton partage. Car Dieu a vu que cela était très bon. C'est à cause de sa bonté que tu vas régner. C'est à cause de sa bonté que tu vas dominer. Amen. Tu ne vas pas régner parce que tu pries, tu vas régner parce qu'il a été bon à ton égard. Alléluia. Amen. Il a vu que cela était très bon. Et donc, très rapidement, pour ceux qui aiment la révélation, le seul jour où Dieu n'a pas dit que c'était bon, c'était le deuxième jour. Mais le premier, il dit c'est bon. Le deuxième, il dit c'est bon. Le troisième, il dit c'est bon. Le quatrième, c'est bon. Cinquième, c'est bon. Sixième, très bon. Le premier, il s'était. Le deuxième, il s'était. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et le deuxième jour, il a créé le deuxième ciel. Et le deuxième jour, il a créé la résidence des ténèbres. Là où le diable et ses démons allaient rester. Il n'a pas dit c'est bon. Il n'a pas dit c'est mal. Mais il a continué de faire. Et à la fin, quand il a suscité l'homme, il dit, c'est très bon. Parce que enfin, j'ai le problème du deuxième jour au sixième jour. Est-ce que tu me comprends? Laisse-moi te dire que quel que soit ce que le diable essaiera de faire, j'ai en face de moi ici, et quelqu'un qui m'écoute à la maison, une personne que le ciel a assignée pour résoudre les problèmes des royaumes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Alléluia! Pour confronter le royaume des ténèbres et pour manifester le règne de Dieu. Donc la religion ne comprend pas la bonté. Vous savez, la religion pense que Dieu va te bénir parce que tu as fait 15 ans à l'église. Ah non, ça fait 20 ans que tu es à l'église. Et vous savez, la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Le premier, on a recruté les gens à la première heure, à la deuxième heure et à la troisième heure. Enfin, il y a deux ouvriers qui ont été recrutés à la 11e heure. Le jour où le maître voulait récompenser, il a payé tout le monde du même salaire. Et ceux qui étaient là depuis ont dit, non, nous on te sert depuis. Comment est-ce que tu nous donnes le même salaire que les autres? Et il répond, et j'aime sa réponse, il dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Est-ce que vous savez que quand Dieu te bénit, il y aura toujours les gens qui auront mauvais œil pour voir en disant, telle personne ne mérite pas. Je vais te dire que même le fait d'être homme, tu ne l'as jamais mérité.
et tu ne vas rien mériter dans le royaume parce que ton père va t'embarrasser de sa bonté par pure grâce. Alléluia. C'est juste la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas de ma faute. Si on dit que ah, ce gars, il aime crâner, se vanter, faire le malin, ce n'est pas de ma faute. L'Éternel a été bon à mon égard. Alléluia. C'est pour ça que David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse devant ta face. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Et il nous fera jouir de sa bonté. Amen. Pas parce que tu pries beaucoup, pas parce que tu jeûnes beaucoup, pas parce que tu donnes beaucoup, mais d'abord parce qu'il est extraordinairement bon. D'accord? C'est très important. Très important. Nous devons méditer sur la bonté de notre maître. La bonté de notre Dieu. La bonté de Dieu est simplement infaillible. Et ça conduit Dieu à une fidélité de niveau élevé. Notre Dieu est merveilleux. La troisième chose que nous voyons que l'amour engendre, c'est la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, l'action d'être indulgent, le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, ne pas tenir rigueur. Nous avons besoin de comprendre la miséricorde. C'est à cause de la miséricorde divine que toi et moi avons été rachetés. Nous n'avions aucun mérite, mais Dieu n'a pas tenu compte de la faute d'Adam en envoyant mourir à la croix le dernier Adam. Vous voyez, en sacrifiant son fils pour nous, il nous a fait miséricorde. Et la miséricorde inclut le pardon. Vous voyez, donc, quelqu'un de miséricordieux est quelqu'un qui aime pardonner. L'amour pardonne. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans pouvoir pardonner à la personne. Toutes les personnes qui mettent fin à une relation parce que la personne en face a été mauvaise démontrent qu'elles n'ont jamais aimé. C'est très fort. Car l'amour couvre une multitude de fautes. Si j'interromps une alliance parce que mon allié a été mauvais, je démontre que je suis mauvais aussi. Quand nous avions été extrêmement mauvais, Dieu n'a pas interrompu l'alliance avec nous. Il a fait mourir son fils à la croix pour nous racheter et nous ramener à lui. Donc, je ne vais pas me dire, parce que tel a commis une faute, je me sépare de lui du premier coup. Non, il faut de la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Encore, sois patient. Vous voyez, ça c'est le côté de l'évangile que nous n'aimons pas. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un te présente la joue gauche, tes gifles à la joue gauche, présente-lui la joue droite. Pourquoi? Parce qu'il nous enseignait la puissance de la manifestation de l'amour au travers de la miséricorde. Apprendre à ne pas tenir compte d'une offense ou d'une faute. Vous savez que le vrai problème que certains d'entre nous ont, c'est que nous pardonnons difficilement. Écoutez une femme qui se plaint de son mari. Oh, pasteur, hein, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Hein, en 1977, il m'avait fait telle chose. On est en 2013. Elle me rappelle une histoire de 1977. Et tous les jours, et souvent même elle chante à la chorale. Elle danse à l'église. Mais elle n'a pas oublié 1977. Et souvent, quand vous écoutez l'histoire, vous demandez, mais oh non. On était en train de sortir, et puis il était avec ses amis. Et quand on a sorti, il a dit, oh, avance. Et il est juste, tu dis, mais attends, il y a quoi? Non, c'était juste ça. Avance. Voilà. Non, parce qu'il a osé me parler comme ça. Et tu demandes, c'était quand? 1978. Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez, et souvent, les femmes sont étonnées de ce que le mari est en boule. Et vous voyez, à partir de ce moment, quand la femme ne pardonne pas, le mari va s'aigrir. Il va dire, en tout cas celle-là, que tu fasses du bien ou du mal, elle va toujours se rappeler le mal. Et vous ne vous rendez pas compte que vous empoisonnez la relation quand vous démontrez que vous ne pouvez pas à pardonner. Vous voyez? Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas considérer quelqu'un même quand il ne m'a jamais pardonné. Parce que la preuve de l'amour se demande quand il y a offense. Vous ne saurez jamais si quelqu'un vous aime quand vous êtes parfait. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ayant la révélation de cet amour, il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ, notre Sauveur? Donc il comprend que Dieu l'a tellement aimé qu'il doit répondre en retour. Bien-aimé, plus vous aimez, plus vous amenez les personnes à répondre à votre amour. Donc il faut investir l'amour. C'est très important. Et la Bible dit dans Jacques 2, versets 13 à 14, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde? Le jugement est sa miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Ça veut dire quoi? Dès que quelqu'un a commis une faute, on dit, ah, il faut le tuer, oh, il faut le lapider. Oh non, je ne crois plus en lui, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il a osé faire une chose pareille? Ça, c'est un jugement qui n'a pas fait miséricorde et qui est sans miséricorde. Vous voyez? Mais la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire que quand je fais miséricorde, la miséricorde surpasse la sentence. La loi dit, par exemple, qu'une femme adultère devra être lapidée. La miséricorde dit, une femme adultère doit être pardonnée. Jésus arrive et il trouve, on est en train de lapider la femme. La loi est contre elle, vrai ou faux? Oh, répondez-moi s'il vous plaît. La loi est contre elle, vrai ou faux? Oui. Est-ce que les gens la lapident à raison? Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Très bien, nous sommes dans la dispensation de la loi, ils ont parfaitement raison. Mais arrive quelqu'un qui voit les choses différemment, qui est l'incarnation de l'amour révélé. Il arrive en contact avec la femme et dit non. La miséricorde que je vais accorder à cette femme va triompher du jugement qui lui est rendu. Donc la miséricorde annule la loi. Et la rend sans force. Parce qu'elle surpasse le jugement de la loi. Et il se met par terre. Et commence à écrire par terre. Quand il touche la terre, il se rappelle que les deux tablettes de la loi ont été prises de la terre. Et il commence à réécrire sur la terre. Comme pour modifier cette loi. En disant, si le doigt de Dieu a écrit sur les tablettes de la loi, je peux encore moi-même changer cette loi parce que je suis Dieu sur la terre des hommes. Donc il apporte la modification, ça triomphe du jugement. Et il dit, celui qui parmi vous n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Il est par terre en train de crier. Et il rappelle à chacune de nos chairs présentes que nous avons été tous tirés de la terre. Et que nous ne pouvons pas permettre à la dimension charnelle de triompher de la dimension spirituelle. Et tout le monde s'en est allé. Cependant, je voudrais vous dire que un de mes aïeuls était dans cette ville, mais il n'était pas parmi ceux qui lapidaient. Ne pensez pas que quand une affaire est grave, on y a affaire. Ne pensez pas que tout le monde qui est dedans, c'est toute la ville. Non, non, non. C'est un groupuscule de personnes entraînées par une passion du mal. C'est tout. C'est pas tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Et souvent, cette personne, justement, n'a pas l'opportunité de te manifester. Tu n'es jamais seul. Il y a des gens qui croient en toi. Même si tout le monde te dit c'est terminé parce que tu as commis une faute. Il y a quand même quelqu'un quelque part qui sait que ce n'était qu'une erreur et que ce n'était pas ton cœur. Il ne faut jamais croire que l'erreur révèle toujours le cœur. Il y a des gens qui commettent des actions alors que le cœur n'y était pas. C'est pour ça qu'il faut être miséricordieux. Mais quand l'action commence à avoir un effet répétitif de façon volontaire, alors le cœur commence à prendre un engagement. C'est différent. D'accord? Donc, l'amour n'expose pas, l'amour couvre. L'amour couvre une multitude de fautes. Pourquoi? Parce que la miséricorde est dans l'amour. Et la Bible dit dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est ça la loi et les prophètes. D'accord? Qui aimerait qu'on lui pardonne quand il commet une faute? Lève ta main droite. Tu aimerais bien qu'on te pardonne. Alléluia. La Bible dit, c'est que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour autrui. Donc, pardonne à ceux qui commettent des fautes. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous fermer le ciel simplement parce que vous n'aimez pas pardonner à des personnes qui ont commis une faute? La Bible dit, celui qui ne fait pas miséricorde n'obtiendra pas miséricorde. Donc, je n'ai pas accès à la miséricorde divine tant que moi-même, je ne fais pas la miséricorde aux hommes. Nous devons être miséricordieux. Le problème qu'on a dans l'Église, c'est que l'Église est devenue une Église qui combat et qui bataille entre elles. Pas de miséricorde. On est devenu compétitif. Convoitise. Le syndrome de Caïn et Abel. Les gens s'entretuent dans l'Église. Simplement parce qu'il ne faut pas qu'on dise que non, tel autre a émergé. Vous savez que ça, c'est une mentalité de souris. Bien-aimé, quand vous connaissez l'amour de Dieu, vous ne pouvez jamais être mal à l'aise que Dieu a élevé quelqu'un d'autre, que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Bien-aimé, jamais vous ne serez mal à l'aise. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que vous comprenez l'amour de Dieu. Et vous voyez, on est dans l'église, on tisse l'autre. Oh non, moi, faut vraiment non. Tel c'est nul, non. Tel autre, non. Mais entre-temps, je vois à la télévision, les homosexuels se lèvent en rang rangé. Et s'en vont marcher et réclament les lois et les obtiennent. Et les églises se mettent ensemble en rang dérangé. Est-ce que vous me comprenez? Et sont dans leur petit coin, ribaka, ribaka, ribaka. Et aucune influence, aucun impact. Est-ce que vous me... Aucun impact, aucune influence dans la société. Je suis la tête et dans la queue, je suis en haut et non en bas. Et on est dans une société, on prend des lois, l'église se tait et ne parle pas. On est simplement là pour dire, oh tel toi a fait des choses, oh tel n'a pas porté le foulard, tel a porté le foulard, tel n'a pas porté le paille, tel a fait ci, tel roule dans une voiture. Mais écoutez, sortons de l'enfantillage, c'est une distraction de l'enfer. Et marchons dans la vérité, faisons ce qui est droit. Est-ce que vous me comprenez? Oh non, telle dénomination c'est pas bon, telle autre c'est bon, tout ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah non, chez nous, c'est comme ça. Eh non, vous là. Non, bien-aimés, focalisons-nous sur une chose. Les intérêts du royaume des cieux. Et si ton frère a commis une erreur, d'ailleurs, va vers ton frère et gagne-le. Ça ne sert à rien d'avoir des batailles et des combats inutiles dans le royaume. C'est pas bon. Il dit, je prie que tous soient un, qu'ils soient parfaitement un. C'est là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Soyons unis dans la miséricorde, marchons les uns avec les autres pour accomplir les intérêts du royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que, bien que je sais, je peux organiser un programme et avoir le maximum de personnes qui viendront à cause de la grâce que Dieu a déposée sur ma vie, je fais toujours un effort d'associer une personne, au moins. Pourquoi? Parce que j'ai le souci de l'unité du corps. J'ai lu dans la Bible qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs pour le perfectionnement du corps de Christ. Et un jour, j'ai reçu ici, sur cette chaire, un jeune homme qui est venu. Oh, Dieu m'a mis à cœur de me soumettre à ton ministère. J'ai appelé une personne, j'ai appelé deux personnes, j'ai appelé trois personnes. On m'a dit, oh non, ne commets pas cette erreur, ce gars est comme ça. J'ai dit, bon, soit. N'empêche que je vois que ce gars sert Dieu. Va au fond. On dit vrai. Il dit, quand il prêche, il dit Jésus ou Satan? On dit Jésus. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Laissez-moi faire mon expérience avec lui. C'est vrai qu'à la fin, ils ont eu raison. Mais j'avais quand même eu raison de faire mon expérience. Parce que aujourd'hui, je parle sur des faits personnels. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je ne me suis pas tenu sur le fait qu'on m'a rapporté quelque chose à son sujet. Parce que je me suis rendu compte que quelqu'un peut avoir été meurtrier hier. Et aujourd'hui, il a changé. Donc je crois que Dieu est capable de changer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que même quand on priait ici, on disait, oh, que telle personne, on le tue au nom de Jésus. J'ai jamais fait cette prière. Parce que même si quelqu'un n'est pas de notre bord, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore avec nous et qui sont des nôtres. Et je crois que Dieu peut les sauver. Je crois que les musulmans peuvent être convertis. Je crois que les païens peuvent être convertis. Je crois que les sorciers peuvent venir au Seigneur. Donc je ne prie pas pour la mort des sorciers, je prie pour leur conversion. Parce que je suis miséricordieux. Mais si le sorcier persiste, alors on fera retour vers l'expéditeur. Et il va entrer lui-même dans le trou qu'il a creusé. Alléluia. Je t'avertis dans cette salle, si tu fais partie des agents doubles, que l'enfer a envoyé, je te donne jusqu'à la fin de ce culte pour te repentir. Parce que si tu continues dans ce chemin et que tu es ici, on va t'enterrer avant ton heure. Ah, mais par amour, on va t'enterrer avant ton heure. Alléluia. Et que quelqu'un dise un bon amen. La personne qui n'a pas dit amen à côté de toi, c'est que c'est d'elle qu'on parlait. Amen. Donc, vous voyez, c'est important. Manifester l'amour. Amen. Hein, par la miséricorde. Lève ta main droite et dis, oh Dieu, aide-moi. Je veux marcher dans la miséricorde. Je veux être miséricordieux à l'égard de mes semblables. Alléluia. Amen, c'est important. Ensuite, il y a la foi. L'amour engendre la foi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que sans révélation de l'amour de Dieu, on ne peut pas marcher dans une grande dimension de la foi en Dieu. L'amour de Dieu conditionne notre, la révélation de l'amour de Dieu, conditionne notre dimension dans la foi en Dieu. Donc, vous savez, et ça c'est important de comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et connaître l'amour de Christ, Éphésiens 3, verset 19 à 20, qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, qu'est-ce qui te donne d'être rempli de la plénitude de Dieu? C'est la connaissance de l'amour de Christ. Quand je connais l'amour de Christ, je suis rempli de la plénitude de Dieu. Donc, connaître l'amour de Christ me remplit de Dieu. Qui veut être rempli de Dieu? Alors, prie que Dieu te révèle son amour. Quand tu connais l'amour de Dieu, tu es rempli de sa plénitude. Vous voyez? Donc, il est important d'avoir la révélation de son amour. Priez pour dire, oh Dieu, donne-moi la révélation. Je veux avoir la révélation de l'amour de Dieu. Éternel, je veux que tu m'éclaires. Que ce soit véritable dans mon homme intérieur. Que ce soit par l'esprit que je comprenne. Quel est l'amour de Dieu pour moi? Et la Bible dit, oh, vous voyez, c'est le verset suit le verset 19. C'est le verset 20. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous voyez, donc la puissance qui agit en nous est rattachée par la révélation de l'amour de Dieu qu'on a. Éphésiens 3, verset 19 à 20. Donc la puissance qui agit en nous est rattachée par la révélation de l'amour qu'on a de Dieu. D'accord? Donc, si je n'ai pas de révélation d'amour de Dieu, je suis limité dans la manifestation de la puissance qui agit par moi. Donc, plus je connais l'amour de Dieu, mieux la puissance de Dieu agit au travers de ma vie. Et la Bible dit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi il met infiniment au-delà? Ça veut dire qu'il a tellement compris l'amour de Dieu qu'il s'est rendu compte que Dieu ne nous exauce pas en nous donnant simplement ce que nous demandons. Mais Dieu nous exauce en nous donnant ce qui est bon pour nous. Et souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui est bon. Et Dieu nous donne au-delà même de ce qu'on a demandé. Vous voyez? Parce qu'il nous aime. Mais c'est la révélation de l'amour. La révélation de l'amour. Donc, vous savez, quand je vais prier, je ne vais pas se mettre à genoux pour dire, bon, par mes prières, j'obtiens ce que Dieu va me donner. Non. Je ne vais pas prier pour obtenir les choses. Je vais d'abord prier pour adorer celui qui est le véritable. Je vais dans sa présence pour communier avec lui. Et bien au-delà de ce que je peux demander, je me tiens devant le trône de Dieu et je rends grâce à Dieu pour les choses qu'il a préparées, rattachées à ma propre destinée. Car si vous les hommes, vous pensez à vos enfants, à leur futur, à l'université où ils iront, vous épargnez pour eux, à plus forte raison Dieu. Il a un plan pour ta vie. Et il y a des jours et des saisons où des choses vont arriver de façon soudaine. Tu serais étonné, pam, quelque chose arrive. Tu dis, waouh, pourquoi? Parce que de temps en temps, Dieu va t'envoyer des caresses de grâce. Il te caresse de sa grâce. Un petit chèque est tombé dans le compte, pam, 15 millions. C'était juste un baiser du ciel. Il te donne une provision, une nouvelle voiture, pam, c'était juste une douce parole de la part de Dieu pour toi. Parce qu'il t'aime. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut avoir la révélation de l'amour de Dieu. Quand tu as la révélation de cet amour, tu pries comme ça, tu dis, Dieu, je sais que ce que je traverse ne vient pas de toi. Car en aucun moment, tu ne me rendras malade pour m'éprouver. Tu m'aimes tellement que je sais que tu ne veux pas me voir dans cet état. Je veux te rendre grâce d'avance pour la santé divine que tu m'as déjà accordée par Christ à la croix. Ô Éternel, je sais que ton désir pour moi C'est que je ne sois pas locataire, mais que je sois propriétaire. Donc, pour toi, ce n'est même pas un problème de loyer. C'est que tu veux me faire sortir d'ici pour me donner une nouvelle maison. Je te rends grâce pour le château que tu me réserves. Merci pour la villa que tu as pour moi, éternel. Que ton nom soit exalté. Aujourd'hui, je te rends grâce pour la dimension où je suis. Merci pour le transport, pour le bac, pour le woro woro, pour le taxi. Je te rends grâce. Mais je sais, éternel, qu'au-delà de ce que je demande, il y a une voiture pour moi. Il y a quelque chose pour moi que tu réserves. Je te rends grâce pour ça. Vous savez, la révélation de l'amour de Dieu t'amène dans une dimension de l'insolence de la foi. Tu deviens insolent dans ta foi. Et vous savez, quand vous me côtoyez, quand vous marchez avec moi, vous êtes embarrassé parce que je ne pense pas comme un humain qui est juste là, rejeté par la société. Non, j'ai la révélation de la dimension de mon identité. En tant que fils de Dieu, fils d'Abraham, héritier des promesses. Donc, quand je mène ma vie sur terre, je la mène en parfaite adéquation. Avec les schémas arrêtés par le sage architecte et constructeur de ma destinée. Celui qui dit et la chose arrive, qui pense et qui exécute. Celui, oh non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je parle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu. Non, c'est pas là. Oh non, je ne sais même pas. J'ai déjà 25 ans. Je n'ai pas encore eu ma licence. J'étais là, je n'ai pas encore de maison. Bien aimé, c'est pas ça. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce que quand tu as la révélation de l'amour de Dieu, tu ne marches pas dans l'inquiétude. Quand on te pose un problème, tu dis, je sais que Dieu va le résoudre. Parce que tu sais qu'il t'aime. Est-ce que vous voyez? Regardez un peu une femme qui sait que son mari l'aime faire le malheur auprès de ses copines. Allô? Eh chérie, comment ça va? Bon, vous savez, généralement, quand votre femme, même si vous appelez une femme, même si ça ne va pas bien et qu'elle a au milieu de ses soeurs, elle l'aime sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Parce que ça fait la fierté de savoir que la femme fait savoir à tout le monde autour que mon mari m'aime. C'est une fierté. La femme se sent honorée que l'amour de son mari soit connu par tout le monde. Par les membres de sa famille, par tout le monde. Vous comprenez? Vous savez, elle se sent protégée par l'amour. Parce que l'amour met dans un sentiment de sécurité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes, vous savez, nous devons être fiers de notre amour, l'amour de Dieu pour nous. Donc, quand tu arrives devant les païens, ce n'est pas le moment de t'inquiéter. Quand on parle de quelque chose, tu dis, je sais que mon Dieu prendra soin de moi. Je sais que l'Éternel, amen, va résoudre ce problème. Même si le matin, tu étais encore en train de parler à Dieu pour dire, Dieu, ça dure. Quand tu sors devant les gens, tu dis, je sais que Dieu s'en occupe. Tu devras te vanter de l'amour de Dieu à ton égard. Il t'a donné ton fils, son fils unique. Il n'y a rien d'autre qui soit à même de te refuser. Je sais que le Seigneur refaçonne un futur pour moi. Ça devrait être ta confession. Tous les jours devant les gens. Sans être là pour dire, oh oui, vraiment, je souffre. Un jour, je suis arrivé dans le bureau d'un pasteur, je n'ai jamais oublié. Il était là assis, un pasteur que je respectais. Et puis, je n'ai jamais oublié cette scène. Une dame distinguée était là. Et puis, je plaignais à la dame, je souffre. Ah, j'ai regardé le pasteur. Je venais m'inspirer auprès du pasteur. Je vois comment il parle. Il a oublié même que j'étais là. J'étais choqué. Je pouvais ressentir ce que Dieu ressent. Un homme appelé, mis à part, ou un par lui, sélectionné d'entre plusieurs pour être son serviteur, aller devant quelqu'un parce que la personne est cadre dans une banque, commencer à poser ses problèmes de façon ridicule. J'ai dit, Dieu est trop bon. Parce que quelqu'un comme ça, Dieu doit le... Une petite gifle comme ça, pour la, je ne sais pas comment je vais dire. C'est parce que vous savez, il y a des gens qui déshonorent tellement le royaume par leurs attitudes. Tu es enfant de Dieu et c'est toi qui vas au bureau te plaindre n'importe comment. Parce que tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu vas faire des courbets, tu es prêt à tout. C'est toi-même qui dis, je suis prêt pour la promotion. C'est toi-même qui propose à ton patron, prends-moi cadeau. Ouais, vous vous demandez, mais ce n'est pas possible. Et vous ne comprenez pas que Dieu peut avoir un plan pour toi. Non, je suis choqué. Les gens ne comprennent pas Dieu. Et c'est pour ça justement que les gens ne marchent pas dans la foi en Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Crois-tu que Dieu est incapable de te trouver un homme selon ses desseins? Crois-tu qu'il est incapable de te trouver un travail? De te donner une élévation? Mais le problème de ton incompréhension vient du fait que tu ne connais pas l'amour de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que tu ne marches pas dans la foi en Dieu. Et le dernier point, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Vous voyez, le sacrifice est la plus grande preuve d'amour qui existe. La plus grande preuve. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le sacrifice, c'est la plus grande preuve. C'est le degré le plus élevé d'amour. C'est la démonstration la plus réelle de notre engagement. Le sacrifice. La démonstration la plus réelle de notre engagement. C'est le sacrifice. La démonstration la plus réelle. Tu auras trois personnes à tes côtés. Et aux trois, tu diras, ok, pendant 2 mois, je ne peux pas vous rémunérer. La personne qui t'aime le plus tiendra le coup. La personne qui ne peut pas, qui ne t'aime pas vraiment, dira, ok, c'est vrai, je t'aime bien, mais je ne peux pas rester 2 mois ici sans salaire. Alors, vous voyez, la personne qui aime vraiment fait un sacrifice plus élevé. Donc le sacrifice est la dimension la plus réelle de la démonstration de mon amour. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu a mis Abraham à l'épreuve en ces mots. Donne-moi ton fils, son unique, celui que tu aimes, Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne de Morija. Ok? Et Dieu voulait en holocauste sur une de ces montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, c'est dans son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Pourquoi Dieu met Abraham à l'épreuve? Pourquoi? C'était pour savoir quelle était la dimension d'amour, d'estime que Abraham avait dans le cœur pour Dieu. C'est pour ça qu'il éprouve. Il dit, je veux voir ce qu'il y a dans ton cœur pour moi. C'est face aux épreuves que vous connaissez vraiment le cœur des gens pour vous. Quand il n'y a pas d'épreuve, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Il faut savoir éprouver les gens pour voir quels sont leurs cœurs. Il mit Abraham à l'épreuve. Et quand Abraham a obéi, au verset 12, la Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. En fait, le mot craindre ici vient d'un mot grec qui veut dire avoir de la révérence pour Dieu. Je sais que tu as de la révérence. Un profond respect. Au point de ne pouvoir rien refuser à Dieu. Donc, c'est la révérence qui produit un profond respect au point où tu ne peux rien refuser à Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas de la révérence pour lui. C'est une dimension élevée où vraiment Dieu prend la première place. Les gens qui ont la révérence pour Dieu, quand ils prient et que leur téléphone sonne, ils coupent et ils continuent de prier parce qu'ils disent Dieu doit avoir la première place. Quand ils touchent leur salaire, ils viennent devant le trône de Dieu avec en disant, dis-moi ce que tu veux Seigneur de cet argent. Ils ne se limitent pas à 10%, mais ils se limitent à la volonté parfaite de Dieu dans leur salaire. Si Dieu dit donc 50, il dit ok Dieu, je ne refuserai jamais rien de ce que tu me demandes. Tiens, voilà, j'apporte dans ton royaume. Pourquoi? Parce que la dimension de révérence t'amène à un niveau élevé dans ta marche avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'on te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc, certaines personnes disent, oh non, Dieu ne m'aime pas trop, je ne vois pas la bonté de Dieu. Mais examine tes pas. Comment est-ce que tu te comportes toi-même avec Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Quelle révérence tu as pour lui? Quel sacrifice tu consens pour le royaume des cieux? Quel prix tu payes pour l'avancement de son règne? Quel effort tu fais pour Dieu? La preuve. Des gens se contentent, je suis à l'église au dimanche, alléluia, amen. Et en semaine, Dieu, je suis trop occupé pour être avec toi. Mais je vais vous dire une chose. Chaque action que nous posons sous le ciel, est sous-pesé par la main de Dieu pour voir si oui ou non ça découle d'un sacrifice que nous sommes en train de consentir pour ses intérêts. Et vous n'allez pas attendre que le ciel vous traite de la même façon que celui qui a fait un effort plus élevé. C'est impossible. Dieu ne fait exception de personne, c'est vrai, mais la mesure de notre sacrifice détermine ce que nous obtenons d'en haut. On n'a pas tous les mêmes grâces, on n'a pas tous la même faveur, on n'obtient pas tous les mêmes promesses, parce qu'on ne fait pas tous les mêmes efforts. On ne paye pas le même prix. D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Et personnellement, je n'ai aucune admiration pour des gens qui n'ont fait aucune preuve de sacrifice par rapport à leurs convictions. Je dis aucune, je reprends bien. Je n'ai aucune admiration, je n'ai pas dit respect, je n'ai aucune admiration pour des gens qui n'ont fait aucune preuve de sacrifice par rapport à leurs convictions. Tu peux être le pasteur de la plus grande des églises du monde. Tant que je ne vois pas le côté sacrificiel que tu as payé par rapport à ton appel, tu n'as pas mon admiration. J'admire les gens qui payent en prix. D'accord? Pas des gens qui héritent des choses sans faire d'efforts. J'aime les gens qui payent en prix. La Bible dit, Moïse est venu grand refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Il a renoncé au trône pour Dieu. Voilà ce qu'on appelle aimer Dieu. Ce n'est pas aimer Dieu et puis à la fin du mois, Dieu te donne 5 millions de salaires, alléluia. Ton adoration monte. Amen, Dieu est bon, amen, amen. C'est tout. Mais quel prix tu payes? Quel sacrifice tu consens pour le royaume? Je veux aller plus loin. Il y a des rendez-vous auxquels je n'irai jamais parce que je suis avec le Seigneur. J'ai des invitations à des programmes, des cérémonies, des concerts où je ne mettrai jamais mes pieds à cause de mon engagement avec Dieu. Je peux être permis de le faire, mais j'aime trop Dieu pour y aller. Et je n'irai pas. Quel prix tu payes? Vous voyez? Quel sacrifice nous consentons pour Dieu? Je peux, vous savez, c'est pas mauvais de se balader à gauche, à droite, aller visiter les gens à droite, à gauche. Mais, si le maître a besoin de moi, je paierai le prix qu'il faut pour être avec lui. Quel prix tu payes? Souvent même, dans le moment de jeûne et de privation au devant de sa face, tu demandes à Dieu la dimension de sacrifice que tu es capable de consentir pour une relation d'intimité. Et Dieu te rencontre au niveau de ton sacrifice. Quand ton cœur est vraiment engagé, le sacrifice suit. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que le sacrifice a deux dimensions. Il y a la dimension de « je pose l'acte ». Il y a la dimension de « je le donne par vœu ». D'accord? Quand deux personnes vont en mairie, ils se font des vœux, n'est-ce pas? Ok? Le maire dit à l'homme de prendre des engagements vis-à-vis de sa femme. Jusqu'à ce que la mort s'en suive. D'accord? Vous rappelez la formule qu'on répète. Mais c'est un vœu sacrificiel. Même dans vos moments de prière, vous devez apprendre à faire des vœux de vos vies et de vos avoirs au devant du trône de Dieu. Lui dit, Seigneur, sur cette terre des hommes, je veux vivre le restant des jours pour faire ta volonté parfaite. Quel que soit le prix que tu me demanderas de payer, je m'engage au Dieu à payer le prix si tu m'en donnes la force. Je suis là pour te servir. Tu m'envoies en Chine, je pars. À New York, je pars. En Guinée-Papouasie, je pars. Au Maroc, j'irai. En Afghanistan, je dirai oui. Ça, c'est le type de prière que je fais. Envoie-moi où tu veux pour faire ta volonté. Je prendrai l'avion. Je serai dans le bateau. Je marcherai à pied. Je roulerai en voiture et même en moto. Si ça demande, je le ferai pour aller annoncer au monde la bonne nouvelle. Je le ferai même s'il n'y a plus de rémunération. Car le ciel, la vie éternelle que tu m'as accordée, est plus grande que toutes les richesses que ce monde est capable de me donner. Seigneur, j'irai aussi longtemps que tu m'en donneras la force. Je te servirai jusque dans ma vieillesse. Je serai même reposant sur une canne et je prêcherai le message de foi à cette génération. Parce que tu en es digne, pour toi je le ferai. Ce n'est pas l'amour où dès qu'il y a un problème, tu vas dans les rues, tu racontes aux gens, il m'a fait telle chose. Ça, ce n'est pas l'amour. Le vrai amour, c'est aussi le sacrifice. Celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qui me suit. Car celui qui met la main en arrière sur la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Je parle du royaume d'engagement. Où tu te mets à genoux et tu pleures à pied à genoux en disant, Seigneur, je ne veux plus recommencer. Je veux rester loyal. Tu ne peux pas être là et tous les jours, tu es contre Dieu et tu souris matin et soir. Non, que tes rires se changent en larmes, en pleurs. Parce que tu te rends compte que ta vie est misérable quand tu empruntes le sentier de la honte et de la déception. Il a trop fait pour toi pour que tu continues de vivre comme ça. C'est ça l'évangile. Où ton cœur, où personne ne se trouve. Tu es en permanente lutte. Pas parce que tu veux une maison, mais lutter pour que la parole reste gravée dans ton cœur. Lutter pour lui ressembler. Lutter pour lui obéir. Oui, les combats de ta foi deviennent les combats de la loyauté. Les combats de l'engagement. C'est ça l'évangile. C'est là où Dieu veut que ton cœur arrive. C'est là où Dieu veut que tu te trouves. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu payes en prix. Quelle joie as-tu de mener une vie sur la terre comme n'importe qui. Non, mène une vie engagée. Que ta louange ait un parfum de bonne odeur dans ta chambre. Quand tu bats tes mains vers le trône de l'Éternel. Et que tu chantes des cantiques. Que même les anges se mettent à se réjouir. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité de ton cœur. Que tes paroles ressemblent à tes intentions de cœur. Et que tu sois vrai. Pas pile ou face, mais pile et pile. De deux côtés, c'est la même personne. Devant les gens comme hors des gens. Ton cœur est à Dieu. Parce que tu l'aimes. Il a un plan pour ta vie. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il est trop grand pour pouvoir te tromper. Il n'a jamais menti. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Tu ferais mieux de revenir à lui de tout ton cœur. Et de marcher dans la droiture de ses voies. Parce que Dieu t'aime. Aujourd'hui, nous sommes en saison de pluie et il pleut. La nuit, le Saint-Esprit te réveille. Tu es sous le frayon, sous les draps. Et tu dis au Seigneur, laisse-moi dormir. D'autres sont à la maca. D'autres sont en train de dormir, à même le sol. En pleine lune, ils n'ont pas où dormir. Mais il t'a donné en toi une maison au lit. Et parce qu'il t'a mis dans le beurre, alors tu n'as plus le temps pour lui. Tu devrais avoir honte d'une telle attitude. Tu devrais avoir honte. D'une telle attitude. Il faut te donner à Dieu véritablement. Qui sait si c'est le dernier jour que tu passes sur la terre? Qui sait si ce sont tes dernières heures? Et même si ce n'était pas les dernières, pourquoi ne devras-tu pas être fier de vivre le restant de tes jours pour lui sur la terre? Je te garantis qu'il ne te refusera rien. Tu verras des choses que personne d'autre ne peut voir. Une telle bonté de Dieu qu'à des moments tu te demanderas qu'est-ce que tu as fait. Dieu te comblera, te bénira, te restaurera, t'élèvera et tout le monde verra que tu avais raison. Oui, même si le début peut être difficile, je te garantis que la fin sera loyale. Tu as épousé un homme et à cause de lui, tu ne viens plus à l'église fidèlement. Parce que mon mari a dit, entre ton mari et Dieu, qui est au-dessus de qui? Quel prix tu payes? Nous devons revenir. L'amour doit engendrer des choses vraies en nous. Parce que nous l'aimons. Non, pasteur, je n'ai pas envie de te dire ça parce que mon mari ne veut pas qu'on sache. À des moments, bien aimé, il faut faire attention. Dieu passe en premier. Soyons des personnes vraies. Laissons que l'amour de Dieu engendre dans nos cœurs. La loyauté. La bonté, la miséricorde, la foi et le sacrifice. Et nous allons vivre une vie différente. Couronnée de grâce, de bénédictions insolentes de la part d'en haut. Nos vies seront des témoignages puissants de ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés, je vous parle en face, j'ai vu Dieu faire des choses inimaginables. Quand tu l'aimes, le ciel est avec toi. On va se lever pour prier. Que dis-je? On va crier à Dieu dans nos cœurs. Pour dire, Dieu, je reviens à toi. Élève ta voix vers le trône de l'Éternel et parle à ton Père. Dis-lui, oui, Seigneur, je me consacre à toi entièrement. Parle à ton Père maintenant. Élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Parle à Dieu de toute ton âme. Parle à ton Père ce matin. Dis-lui que tu es prête, que tu es prêt. Oh, élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Parle à celui qui est. Élève ta voix. Prie le Seigneur.